Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Dans l'actualité de l'Église, nous vous rendrons compte notamment de la semaine du Pape avant de vous informer sur ce qui a marqué l'Église Famille des Dieux au Bénin, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. L'actualité sociopolitique africaine, quant à elle, nous conduira au Cameroun, en Centrafrique, au Mali, entre autres. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukosso.
Ouvrons l'actualité de l'Église avec la semaine du Pape, Françoise Niamien.
Le pape a reçu tour à tour samedi le cardinal Makawele, préfet de la Congrégation pour les évêques, les membres de la conférence épiscopale espagnole, conduit par le cardinal Juan José Ormeia, archevêque de Barcelone et président de la conférence épiscopale espagnole, qui était accompagné du vice-président de cette conférence, le cardinal Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid, et du secrétaire général, Monseigneur Luis Javier Arguello García, évêque auxiliaire de Valladolid, Monseigneur Flaviano Rami al-Cabanal, évêque de Aterusa des Syriens, visiteur apostolique pour les fidèles syriens en Europe occidentale et procureur à Rome d'Antioche des Syriens, ainsi que les membres de sa famille, ont été également les hôtes du pape. Toujours samedi, le pape a reçu les membres de la fondation Banco Farmaceutico, un groupe de volontaires qui collecte et récupère des médicaments auprès de donateurs et d'entreprises pour les livrer à des organismes sociaux qui s'occupent de personnes en difficulté. Dans son adresse, François leur a proposé de mondialiser le remède, c'est-à-dire la possibilité d'accéder aux médicaments qui pourraient sauver tant de vies pour toutes les populations dans un effort commun d'une convergence impliquant tout le monde. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé samedi le professeur Gustavo Osvaldo Bedix, membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences sociales. Vendredi, le pape avait reçu en audience privée les membres de la rédaction du magazine hebdomadaire Tertio, un organe de presse belge. François leur a rappelé que dans notre société actuelle, l'information fait partie intégrante de notre quotidien. Lorsqu'elle est de qualité, elle nous permet de mieux comprendre les problèmes et les défis auxquels le monde est appelé à faire face, tout en inspirant les comportements individuels, familiaux et sociaux. Jeudi, le pape François a adressé un message aux prêtres âgés et malades de Lombardie en Italie, rassemblés le 17 septembre avec leurs évêques au sanctuaire de Notre-Dame de Caravaggio pour la journée de prière et de fraternité avec le clergé âgé et malade. Dans son message, le Saint-Père se réjouit de l'organisation de cette journée malgré les limites nécessaires pour lutter contre la pandémie. François a exprimé sa gratitude à la conférence épiscopale régionale de Lombardie qui organise depuis 6 ans cette journée de prière et de fraternité avec le clergé âgé et malade et souligne la beauté de cette attention particulière accordée aux pasteurs âgés et malades qui constituent la partie physiquement plus fragile de leur presbytère. En tenant son audience générale mercredi dans la cour Saint-Damas du palais apostolique, le Saint-Père a poursuivi ses catéchèses sur le thème « Guérir le monde » après la pandémie de COVID-19, abordant le point sur le soin de la maison commune et l'attitude contemplative. Pour sortir d'une pandémie, a-t-il indiqué, il faut guérir et se soigner mutuellement. Ainsi, tous ceux qui prennent soin des personnes vulnérables doivent être soutenus dans leur service. Notre maison commune a également besoin de soins, a dit le pape, ajoutant qu'abuser de toute forme de vie était un péché grave. Mardi, le pape a préfacé un ouvrage publié ce même mardi intitulé en italien « Per un sapere della pace », ce qui peut se traduire en français « pour un savoir de la paix » ou « pour une science de la paix ». Dans ce livre, publié par la maison d'édition du Vatican de Gilfredo Marengo, vice-président et professeur d'anthropologie théologique à l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille, le pape explique dans sa préface que l'objectif est d'aider à définir les contours d'une figure spécifique telle que le travailleur de la paix, rappelant sa récente décision d'établir un cycle d'études en sciences de la paix à l'Université pontificale du Latran.
Le préfet du secrétariat pour l'économie, le père Juan Antonio Guerrero, et le reviseur général par intérim du Vatican, Alessandro Cassini Reghini, ont signé un protocole d'accord sur la lutte contre la corruption le vendredi 18 septembre. Les deux autorités du Saint-Siège collaboreront pour identifier les risques de corruption et pour la mise en œuvre effective des règles récemment approuvées en matière de transparence, des contrôles et des concurrences des marchés publics du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. L'actualité de l'Église nous mène au Bénin pour faire écho de la rentrée académique à l'école d'initiation théologique et pastorale. Reportage.
Rentrée académique 2020-2021 à l'école d'initiation théologique et pastorale, l'EUTP au Bénin. Elle démarre ses activités par une messe de rentrée présidée le lundi 14 septembre dans l'église Saint-Michel Gbeto de Cotonou par le directeur de l'école, le père Rodrigue Bedjinou, entouré de ses assistants, les pères Aimé Frédéric Ronzandi et Maurice Roumenou, respectivement directeur académique et directeur spirituel de l'institution. Et ce, devant près de 300 étudiants, première et deuxième année confondues, et les membres du personnel de l'école à divers niveaux. À propos du menu des cours, le père Ronzandi nous en a indiqué quelques lumières.
L'école d'initiation théologique et pastorale est comme institution de formation des fidèles laïcs qui veulent approfondir leur connaissance du Christ, de l'Église, de la Bible à travers des disciplines donc dédiées pour la Bible, pour la théologie, avec bien sûr d'autres disciplines comme la vie spirituelle, l'oraison, des cultures générales, un peu le droit canonique, donc des disciplines annexes qui permettent de comprendre un peu mieux les données de la foi et donc de l'ordre bien sûr de ce qui est de la foi et de la morale prévu et vécu par l'Église.
Pour le père Bedjinou à Lomélie, cette rentrée académique doit avoir un lien avec la solennité de la croix glorieuse célébrée lundi 14 septembre.
Il n'y a rien de grand de la vie sans sacrifice. Un amour qui ne coûte rien ne vaut rien.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, les sœurs de Saint-François d'Assise des Tchoumbé ont réélu la sœur Catherine Kachokwe-Wanjowo comme supérieure générale. Les détails dans cette correspondance.
L'évêque de Tchoumbé dans la province du Sankoro, Monseigneur Nicolas Diomolola, a annoncé le jeudi 17 septembre la nouvelle de la tenue du 30 août au 10 septembre du 12e chapitre général de la congrégation diocésaine des sœurs de Saint-François d'Assise de Tchoumbé. Les religieuses étaient réunies sous la modération du frère Guillaume Kipoy, supérieur général des frères Josephites de Kinzambi du diocèse de Kikwit dans la province du Kwilu. Le chapitre général s'est déroulé de manière tout à fait régulière, dans une atmosphère studieuse et laborieuse, avec d'intenses moments de prière, estime l'évêque de Tchoumbé. Monseigneur Nicolas Diomo annonce aussi qu'en vue de la rénovation de leur institut, les religieuses ont décidé de nouvelles orientations à mettre en œuvre durant les 6 prochaines années. Une équipe dirigeante a été élue au terme des assises capitulaires. La sœur Catherine Takoche-Wanjowo a été réélue comme supérieure générale. La vicaire générale a été réélue également, la sœur Simone Sambo. Avec elle ont été élues également 5 conseillères générales. Les sœurs Marie-Catherine Mbuchu, Rosalie Akenda, Monique Ngidi, Marie-Hélène Olenga et Louise Achema. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Bouclons l'actualité de l'Église par le Burkina Faso pour parler avec notre correspondante à Ouagadougou des vœux perpétuels et jubilés d'argent de franciscaine missionnaire de Marie.
En la fête des stigmates de Saint-François d'Assise le jeudi 17 septembre, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie ont célébré d'une part la profession perpétuelle des sœurs Mariam Béatrice Nikiema et Béguéret Berthe Huguette Pouda et d'autre part le jubilé d'argent des sœurs Angèle Dabiri, Christine Soumé et Marguerite Razassine Madrasrenimbi. Cette cérémonie de vœux perpétuels et de jubilés d'argent a été présidée en l'église paroissiale Saint-Camille de Ouagadougou par Mgr Léopold Ouédraogo, évêque auxiliaire de Ouagadougou, en présence de Mgr Dr Raphaël Dabiri, évêque de Diébougou, sans oublier les nombreux prêtres concélébrants et la foule des parents amis et connaissances des élus du jour. Sobre mais fervente, cette liturgie a mis en valeur plusieurs symboles alliant de façon harmonieuse des éléments de la culture du milieu et de la liturgie catholique. Ainsi, par exemple, les deux professes, dès le rite d'entrée, ont été accompagnés par leurs parents qui leur ont donné leur bénédiction auprès de la sœur provinciale, sœur Perpétue Poda. Celle-ci a alors demandé aux professes d'exprimer ouvertement leur désir devant la communauté chrétienne témoin de leur engagement. après quoi elles ont reçu chacune un pagne traditionnel tissé signe de féminité et de fécondité avant d'être présentées à l'évêque célébrant qui s'est entretenu avec elles. Il les a exhortées à vivre à fond cette fécondité dans l'église à l'instar de Marie. Le repas de fête s'est achevé par une pluie abondante, interprétée par beaucoup comme un signe de cette fécondité de la part de Dieu. Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le Nigeria a organisé samedi son premier scrutin depuis les débuts de la pandémie de la COVID-19 pour élire le nouveau gouverneur de l'État d'Edo au sud du pays. Plus d'un million d'électeurs de la région qui compte 4 millions d'habitants doivent choisir un nouveau gouverneur pour les 4 prochaines années. L'Éthiopie a annoncé samedi des poursuites contre plusieurs leaders d'opposition, notamment pour terrorisme et incitation à la violence, ce qui risque d'étendre un peu la situation dans la région Oromia. Les accusations qui pourraient mener à un emprisonnement à vie sont liées aux violences qui ont éclaté après le meurtre fin juin de Achalu Udessa, un chanteur populaire oromo connu pour donner une voix à cette communauté. Un ex-responsable de la garde du président centrafricain déchu, François Bozizé, a été mis en examen puis écroué vendredi soir à Paris, notamment pour complicité des crimes contre l'humanité et complicité des crimes de guerre. Arrêté mardi dans l'est de la France, Eric Bagala, un centrafricain de 41 ans, a également été mis en examen pour actes de torture et association des malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de guerre pour des faits commis entre 2007 et 2014 en tant que responsable de la garde présidentielle puis en tant que responsable des milices anti-Balaka. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a appelé vendredi la population à sortir mardi, réclamant un cessez-le-feu dans les régions anglophones et la réforme du système électoral.
Radio Vatican, France-Afrique, Camille Moukoso.
L'ancien président du Mali, Moussa Traoré, à la tête du pays pendant 22 ans, a été inhumé vendredi à Bamako après des obsèques nationales en présence de responsables de la junte au pouvoir et anciens responsables. Le dirigeant libyen Khalifa Haftar a accepté vendredi de lever sous condition les blocus imposés par ses forces sur les sites pétroliers, mais la compagnie nationale de pétrole exige le départ de groupes pro-Haftar avant de relancer la production. L'ancien patron d'Hôtel Rwanda, Paul Rusesa Bagina, arrêté à Kigali, pensait se rendre au Burundi pour participer à des offices religieux, a-t-il déclaré dans une interview au New York Times. Le père jésuite Adrien Lentiampa nous introduit à la méditation avec les lectures du 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A.
Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous est très familier. Il est même passé dans le parler ordinaire. Il s'agit de l'ouvrier de la 11e heure. S'il nous est familier, cet évangile n'en est pas moins déconcertant. À sa lecture, c'est plutôt l'indignation qui monte à bord dans nos cœurs, comme ce fut le cas des premiers embauchés de la parabole. Le maître du domaine serait-il si insensible à ceux qui ont porté le poids du jour, au point de les traiter de la même manière que les derniers venus? Est-ce là l'image des dieux que la parabole veut nous transmettre? En réalité, la parabole de ce jour met plutôt en évidence la bonté de Dieu et sa patience envers nous. Elle nous invite ainsi à convertir notre regard sur le monde et sur nos frères pour adopter le regard même de Dieu. En effet, à bien considérer cette parabole, le traitement donné aux ouvriers de la première heure correspond bien au salaire convenu, indénié. Rappelons-nous que dans le système monétaire de l'époque, un denier équivalait au salaire journalier nécessaire pour faire vivre décemment sa famille. En se mettant d'accord avec eux pour un denier, le maître du domaine tient donc compte du bien-être de ses ouvriers de la première heure. Et quand il promet à ceux qu'il engage par la suite un salaire juste, c'est certainement pour que eux aussi aient une vie décente. Leur émettre moins d'un denier serait les condamner à une vie indécente. Au-delà de ce qui peut sembler une injustice, l'évangile de ces jours nous montre donc comment le maître du domaine veille d'abord au bien-être de tous ses ouvriers. En ce sens, l'évangile de ce dimanche nous envoie un message capital. Il n'est jamais tard de se mettre au service du Seigneur. Quel que soit le temps que nous avons déjà perdu à nous rapprocher de lui, quelle que soit notre histoire, le Seigneur est là, toujours prêt à nous associer à son œuvre. En nous y associant, il nous garantit et nous promet un épanouissement, une réalisation totale de notre vie. Les premiers embauchés qui refusent que les derniers venus soient traités dignement comme ils le sont eux-mêmes font preuve d'égoïsme qui rend leur cœur insensible au bien des autres. Comme eux, nos propres cœurs se crispent parfois devant la bonté du Seigneur pour les autres. Nous ne savons pas reconnaître le bien qui se fait à travers les autres. Notre égoïsme nous rend aveugles devant les bontés du Seigneur dans ce monde. Face à cette attitude, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui et nous dit « Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» Demandons donc au Seigneur de transformer nos cœurs et nos regards pour que, en réponse à l'interpellation du prophète Isaïe dans la première lecture de ce jour, nos chemins rejoignent les chemins de Dieu, que nos pensées correspondent à ses pensées. Demandons la grâce d'avoir la même disposition que celle que Paul nous enseigne dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, une grande liberté intérieure, toujours orientée vers l'unique gloire de Dieu. Avec le psaume méditatif de ce dimanche, engageons-nous à chanter la bonté et la miséricorde du Seigneur pour chacun et pour tous. C'est de cette manière que nous deviendrons véritablement des fils et des filles de Dieu, et ainsi nous rendrons visible le royaume que le Christ est venu instaurer au milieu de nous. Amen.
Le père jésuite Martin Baati continue de nous présenter les documents finaux de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la présentation du deuxième chapitre du document final du Synode sur l'Amazonie. La dernière présentation était focalisée sur le deuxième point intitulé « Une église missionnaire qui sert et encourage le peuple amazonien ». Ce point nous avait offert l'opportunité de méditer sur cinq petits points, à savoir une église au visage autochtone, paysan et afro-descendant, une église au visage des migrants, une église au visage jeune, une église qui parcourt de nouvelles pistes dans la pastorale urbaine, et enfin une spiritualité d'écoute et de proclamation. Aujourd'hui, nous continuons la présentation du troisième grand point de ce chapitre intitulé « De nouvelles pistes pour la conversion pastorale ». Je reprends in extenso ce que les participants au synode sur l'Amazonie pensent et proposent en ce qui concerne les nouvelles pistes pour la conversion pastorale. En effet, le document final affirme que les équipes missionnaires itinérantes en Amazonie qui tissent et construisent des communautés en chemin aident à renforcer la synodalité ecclésiale. Celles-ci peuvent unir divers charismes, institutions et congrégations, laïques, religieuses, prêtres, etc. Réunir ces différents acteurs là où on ne peut pas le faire seul. Les tournées des missionnaires qui quittent leur lieu de vie habituel et passent un certain temps à visiter les communautés une par une et à célébrer les sacrements donne lieu à ce que l'on appelle la pastorale des visites. C'est un type de méthode pastorale qui répond aux conditions et aux possibilités actuelles des églises en Amazonie. Grâce à ces méthodes et par l'action de l'Esprit-Saint, ces communautés ont aussi développé une richesse ministérielle qui est un motif d'action de grâce. Les participants au synode proposent un réseau itinérant qui rassemble les différents efforts des équipes qui accompagnent et dynamisent la vie et la foi des communautés en Amazonie. Le chemin du plaidoyer politique pour la transformation de la réalité doivent être discutés avec les pasteurs et les laïcs. Pour passer de ces visites pastorales à une présence plus permanente, les participants au synode invitent les congrégations et où les provinces des religieux et religieuses du monde entier qui ne sont pas encore engagés dans ces missions à établir au moins un lieu de mission dans l'un des pays amazoniens.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père Christian Ndokindimba, jésuite de la République démocratique du Congo, ingénieur en agriculture et développement rural, professeur à la faculté des sciences agronomiques et vétérinaire de l'Université Loyola du Congo. Dans cette deuxième partie de l'entretien qu'il a eu avec nous, le père Christian Ndoki commence par nous parler des conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus sur notre environnement et aborde la question du rôle de l'Afrique dans le processus de préservation de notre maison commune. On l'écoute.
Peu importe l'origine de cette maladie, elle nous a interpellés sur le fait que la nature n'est pas manipulable à soi. Finalement, elle nous a permis de retrouver certaines habitudes de vie, des habitudes saines. Le temps de confinement, par exemple, a vu le pic de pollution chuter dans de nombreux pays.
Quel rôle joue aujourd'hui l'Afrique dans les processus de préservation de l'environnement? Est-elle leader ou se contente-t-elle de suivre?
Malheureusement, l'Afrique traîne encore les pieds. Nous sommes cruellement absents de beaucoup de débats. Nous sommes absents des lieux où se prennent les grandes décisions sur les questions environnementales. Certes, il est vrai que l'Afrique a tel nombre de problèmes que les questions de changement climatique peuvent paraître secondaires. Mais en fait, tout est lié. Et les questions de gestion de l'environnement ne doivent pas être dissociées des questions économiques, politiques ou sociales. Nous, Africains, nous nous plaignons souvent que les autres prennent des décisions qui nous sont défavorables. Mais n'est-ce pas parce que nous ne sommes pas assez proactifs? Nous sommes tellement absents que les autres décident à notre place. C'est à nous d'être présents.
Pour le continent africain, bien en retard dans la technologie, le changement climatique constitue-t-il un obstacle à la croissance et au développement?
Premièrement, l'Afrique est le continent qui a le moins de capacité de résilience face au changement climatique ou à toute catastrophe naturelle. Nous sommes très peu outillés. Nous avons peut-être moins contribué que les autres États, les autres continents au changement climatique, mais c'est nous qui allons payer les conséquences plus que les autres parce que nous avons moins de capacité d'anticipation et de réaction. Et cela aura un impact fort sur notre croissance et notre développement. C'est évident.
Au regard de cette réalité, où en est l'Afrique aujourd'hui dans son rapport avec l'environnement?
La réalité actuelle, c'est que l'Afrique a encore beaucoup de chemin à faire dans son rapport à l'environnement. Notre environnement a été lié dans les décennies, que dis-je, des siècles d'exploitation anarchique entre l'esclavage, la colonisation et la forme sournoise qu'a prise la colonisation aujourd'hui, on ne sait pas encore nommer. Nous avons été appauvris au point de vendre, polluer nous-mêmes le peu de ressources qu'il nous reste, les eaux, les ressources minières, les animaux, les forêts, etc. Et la conséquence en est un appauvrissement continu et un cycle infernal de conflits où le contrôle de telle ou telle ressource. Vous savez que la plupart des guerres et des situations d'instabilité sur notre continent sont liées au contrôle des ressources naturelles. Et le pire, c'est que ce n'est même pas à notre avantage. Nous ne faisons que ramasser les miettes que veulent bien nous laisser les puissances qui se servent de nous. Quel avantage, par exemple, tirons-nous de la grande forêt du Congo? Pas grand-chose.
On a justement beaucoup parlé du bassin du Congo. Quelle est sa situation?
Le bassin du Congo. Bon, le dernier synode sur l'Amazonie a posé des questions qui concernent aussi bien le bassin du Congo que l'Amazonie. De nombreux acteurs, notamment le réseau ecclésial du bassin du Congo, REBAC, que coordonne le jésuite Rigobert Minani, ont travaillé et travaillent encore pour la sauvegarde de cet espace, de sa riche biodiversité et de ses populations qui sont marginalisées et menacées. En somme, la forêt du Congo, qui est un des deux poumons du monde, est menacée par l'exploitation sauvage du bois et autres ressources animalières et minières, mais aussi par le déplacement forcé des populations dont la vie est intimement liée à cette forêt. Les peuples autochtones, comme on dit, ils sont en danger. Il y a donc beaucoup à faire, sensibiliser les populations et les politiques au fait que le bassin du Congo est une richesse menacée et qu'il nous faut à tout prix le sauvegarder.
À chaque conférence sur le climat, la même question revient. Les pays riches peuvent-ils imposer aux pays pauvres des mesures contre les réchauffements climatiques?
Je ne sais pas s'ils le peuvent ou pas, mais le rapport des forces est inégal. Le rapport est tellement inégal, il y a des décisions qui sont prises, parfois en notre défaveur, par les pays riches. La question environnementale ne constitue pas un point important dans l'agenda de la plupart des pays africains. C'est juste un appendice, en fait. C'est dommage, en fait. Le résultat, c'est que les autres finissent par nous imposer leur vue parce que nous ne sommes pas suffisamment préparés. Et nous venons même parfois sans apporter aucune solution. Et le pire, c'est que les délégations africaines qui participent à ces différentes assemblées ou conférences sur le climat sont souvent constituées non sur base de compétences, mais d'appartenance à un groupe d'or ou à un autre. Et le résultat en est que beaucoup y vont pour du tourisme. Et c'est fort dommage.
Père Christian Ndokindimba, jésuite de la République démocratique du Congo, ingénieur en agriculture et développement rural, professeur à la Faculté des sciences agronomiques et vétérinaires à l'Université Loyola du Congo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que se referme cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Camille Moukosso. À toutes et à tous, merci de votre fidélité aux ondes des radios Vatican. Le prochain rendez-vous c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.